Voilà. Denis de Rougemont est un ancien étudiant de l'université de Neuchâtel. C'est dans ce bâtiment ici qu'il a fait toutes ses études. Et c'est même ici qu'il a fait ses études gymnasiales, puisque le lycée cantonal se trouvait dans ce bâtiment à son époque. Alors pourquoi avoir organisé une exposition sur Denis de Rougemont maintenant ? Il y a au moins deux raisons pour cela. D'abord parce que nous fêtons cette année, au mois de mai justement, le 70e anniversaire du Conseil de l'Europe, dont Denis de Rougemont est un des pères fondateurs. Ensuite, et surtout parce qu'une équipe de chercheurs, dont François Saint-Ouen et Jonathan Wenger font partie, qui sont en train de numériser l'intégralité des œuvres et des manuscrits de Rougemont qui se trouvent aux archives et qui se trouvent notamment dans le fonds Denis de Rougemont qui est déposé à la BPUN. Et ça, cette recherche se fait dans le cadre d'un projet qui s'intitule Rougemont 2.0. Et ces archives seront à disposition du public, elles seront en ligne. L'intégralité des archives, c'est-à-dire des milliers de documents, des dizaines de milliers de documents, seront à disposition du public dès la fin de cette année. Cette exposition reprend d'ailleurs plusieurs de documents inédits qui ont été trouvés au cours de ces fouilles presque archéologiques dans les archives de Denis de Rougemont. Et bien sûr, la question de l'Europe est toujours d'actualité, surtout à la veille des élections européennes. Mais évidemment, on peut se poser la question, quelle Europe ? Pour Denis de Rougemont, l'Europe ne doit pas être une addition d'États-nations, puisque les États-nations, selon lui, n'ont qu'une vocation, c'est faire la guerre. Denis de Rougemont préconise au contraire un fonctionnement politique fondé sur l'interaction libre des régions, indépendamment des frontières politiques. Alors, l'État-nation, source de tous nos maux, pour en débattre avec vous, ce soir, trois intervenants, Nicolas Levrat, Jordi Tegelt-Gorgas et François Saint-Ouen, et je vais les laisser se présenter eux-mêmes. Je vous passe le micro.
Merci beaucoup. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Merci d'être présent. C'est un plaisir d'être ici pour discuter de ces questions qui, je pense, sont particulièrement importantes et méritent d'être visitées aujourd'hui, en 2019, dans le cadre de l'Europe telle que nous la vivons et dans le cadre des États qui, en Europe, traversent des périodes assez compliquées, beaucoup des États européens, la plupart. Alors, pour ma part, je suis professeur à l'Université de Genève. J'ai eu le privilège d'être un successeur de Denis de Rougemont, puisque j'ai dirigé de 2007 à 2013 l'Institut européen de l'Université de Genève, que de Rougemont avait fondé en 1963. En 2013, j'ai eu le privilège de célébrer les 50 ans de cet institut, mais aussi la lourde responsabilité que j'assume devant vous de mettre fin à l'existence de cet institut pour le transformer en un institut d'études globales dans lequel les études européennes gardent leur place. Je ne sais pas si de Rougemont aurait approuvé ou pas cette initiative. En tout cas, j'en assume la responsabilité. Par ailleurs, sur ces questions, je me suis beaucoup intéressé depuis 2010 au mouvement qu'on peut qualifier de nationaliste, j'espère que j'aurai l'occasion d'y revenir, qui se sont notamment développés en Écosse et en Catalogne.
Merci. Donc je suis professeur ici à l'Université de Neuchâtel, à l'Institut d'Histoire. Je travaille sur le Moyen-Orient depuis 25 ans, plus ou moins, et puis sur la question plus particulièrement des minorités, des relations minorités dans la région. Et puis depuis 2017, je dirige un projet de recherche financé par le Conseil européen de la recherche sur la formation des États au Moyen-Orient après la Première Guerre mondiale. Voilà.
Alors moi, je suis chargé de cours à l'Institut d'études globales de l'Université de Genève, le Global Studies Institute, qui a succédé à l'Institut d'études européennes qu'avait créé Denis de Rougemont en 1963, comme Nicolas Levrat vient de le dire. Je donne un cours sur la pensée de Denis de Rougemont dans le cadre de cet institut. Je fais partie aussi de l'équipe que Claudine Assad a mentionné de numérisation des œuvres complètes de Denis de Rougemont. 40 000 pages quand même, pour le moment, hein, c'est quand même pas mal. Mais comme aurait dit Denis Rougemont, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et il y a de la qualité. Et puis, quoi dire d'autre ? Ben, c'est à peu près tout. Une dernière chose. J'ai eu le privilège, alors je ne sais pas si c'est un privilège étant donné les années qui passent, d'avoir été l'étudiante de Denis Rougemont.
Merci beaucoup. Alors, je voudrais revenir sur la notion d'éthanation. En fait, l'éthanation, c'est quoi ? De quand est-ce qu'il est né ? Est-ce que François Satouan, vous pouvez répondre ?
En tout cas, je vais essayer en me basant sur ce qu'en dit Denis Rougemont. Alors, première chose, la formule elle-même de l'éthanation avec un trait d'union. Alors, d'après Denis Rougemont, c'est une création des mouvements personnalistes des années 30. Il cite notamment un article d'Alexandre Marc de l'Ordre Nouveau en 1937 qui, pour la première fois, dit-il, ce serait à vérifier, met en avant cette idée d'État-nation, cet amalgame entre deux réalités différentes que sont l'État et la nation, pour déjà à l'époque le critiquer. Maintenant, l'usage est assez bien consacré. Je dirais que dans certaines langues, comme l'italien, on continue d'utiliser État national, par exemple, pour dire État-nation. Mais enfin, voilà, donc ça, c'est l'origine de la terminologie elle-même, donc des groupes personnalistes des années 30 à Paris, dont Rougemont faisait partie. Alors, la question était...
La question, c'était, c'est quoi exactement ? Alors voilà.
C'est quoi exactement ? Oui, alors je vous ai... Alors, c'est quoi exactement ? Alors là, je vais être court. Pour Rougemont, c'est la mainmise d'un appareil étatique sur une réalité nationale. C'est ça, l'État-nation, c'est-à-dire la mainmise d'un appareil administratif sur une réalité d'ordre culturel, spirituel ou de but commun ou d'origine commune.
Vous pourriez donner un exemple ?
Alors, Rougemont, je peux parler de la genèse et de l'apparition, d'abord, de l'État-nation, se faire l'historique que lui-même fait. Rougemont privilégie beaucoup le cas de la France, dont il fait le modèle de l'État-nation et donc l'antimodèle du fédéralisme dans sa pensée. Pour lui, les choses, alors ça ne nous rajeunit pas, mais les choses remontent à Philippe le Bel, donc Philippe IV le Bel, et ses légistes Enguerrand de Marigny et Guillaume de Nogaret, qui ont déclaré que le roi, à l'époque, il y avait toute une rivalité, l'empereur, le pape et le roi Philippe le Bel, qui se déclarent souverain en ces terres. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît aucune autre autorité plus élevée que la sienne. Superior interis not recognoscens. C'est la formule empereur en son royaume, souverain en son royaume. C'est l'origine de l'État-nation suivant Rougemont, donc le début 1300 et quelques, le début du XIVe siècle. Et ensuite, l'État-nation se développe. Alors, il y a quelques points de repère pour la France, c'est... l'édit de Villers-Cotterêts en 1539, sous François Ier, qui institue le français comme seule langue pour les édits royaux et pour les décisions de justice. Donc c'est la langue unique. C'est évidemment toute la période du XVIe, XVIIe siècle, avec le système westphalien, cuius regio et ius religio, c'est-à-dire les citoyens doivent avoir leur religion de leur prince. C'est l'absolutisme avec la formule de Louis XIV, 1661, l'État c'est moi. Et c'est l'État-nation moderne arrive avec la Révolution française, donc c'est la thèse de Tocqueville, l'Ancien Régime et la Révolution. Et l'État-nation... se perfectionne sur Rougemont. Alors pour Rougemont, on parle beaucoup de l'État-nation napoléonien, c'est-à-dire juste après la Révolution et au XIXe siècle, l'État-nation met au point un système d'uniformisation qui est basé sur l'armée, sur l'école, sur la propagande avec la presse et sur l'émergence de la technique. Je cite juste donc cette période du 19e siècle. Un historien comme Ernest Gellner a défendu l'idée que l'État-nation était un système qui était compatible avec la révolution industrielle. C'est-à-dire, il y avait à ce moment-là non seulement des techniques nouvelles, mais aussi il y avait les gens allaient dans les villes, il fallait créer une uniformisation des territoires qui ne l'étaient pas encore, et donc l'État-nation qui mènera à la Première Guerre mondiale se développe et se répand au XIXe siècle et s'exportera dans les colonies à cette époque-là aussi, ce modèle. Voilà, et ensuite, c'est la thèse des personnalistes de l'entre-deux-guerres et surtout de Rougemont après la Deuxième Guerre mondiale quand il va défendre un idéal européen. L'État-nation est entré en crise et l'État-nation n'est plus adapté aux réalités d'aujourd'hui. Il faut dépasser l'État-nation pour faire l'Europe.
Voilà, donc l'Europe est composée d'États-nations et qui ont mené à la guerre, c'est ça, Nicolas Levrat?
Oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, et de Rougemont a beaucoup écrit là-dessus, l'origine de la construction européenne, c'est un projet antinational, notamment parce que par deux fois dans la première moitié du XXe siècle, il y a eu des excès du nationalisme, de guerres civiles européennes, comme on les a appelées plus tard, qui ont conduit la France et l'Allemagne, et puis d'autres États qui se sont associés, à substituer à des confrontations entre nations un projet commun, un projet de type fédéral. C'est d'ailleurs pas totalement original. Vous savez probablement que la Suisse, n'est-ce pas, la Suisse contemporaine, moderne, naît en 1848 d'une confrontation qui a heureusement pas vraiment lieu. Hein, on a fait moins de dégâts que les deux guerres mondiales. Mais de fait, c'est le même cas de figure. Hein, et donc, cette alternative à la confrontation entre des groupes, alors à l'époque, c'était plutôt des groupes, des regroupements par affinité religieuse, en Suisse, mais encore une fois, plutôt que la confrontation, un projet commun et qui alors ne prend pas la forme nationale, mais prend une forme fédérale et qu'on peut qualifier d'antinationale. Ceci étant, si vous me permettez juste en deux minutes, revenir un tout petit peu sur cette notion de nation et notion d'État-nation, je pense quand même que, et je suis là-dessus en train de prendre des distances avec la position de Denis de Rougemont, mais je pense qu'on ne vit pas la même époque, je pense que la notion de nation était une belle notion moderne. Alors évidemment, la modernité, ce n'est pas juste aujourd'hui, ça, on arrive peut-être même à son terme, mais quelque part, ça permettait de créer une communauté nationale, et donc une communauté politique, créer du lien entre les différentes classes, les différents groupes sociaux qu'on avait dans une société qui était distincte auparavant. Et c'est notamment un des grands succès de la Révolution française que de construire cette idée nationale. Et donc, il y a une dimension de cohésion du groupe, de la population d'un territoire donné, qui est importante et positive et qu'on est, pour partie, en train de perdre aujourd'hui. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a certaines vertus à l'idée de nation. Ceci étant, il y a un problème avec cette idée d'une identification effectivement à un groupe national, c'est qu'il y a une dimension interne qui est positive, mais il y a évidemment une dimension externe qui, elle, est négative, c'est-à-dire que pour renforcer ces cohésions nationales, évidemment, on va se distinguer, on va s'opposer à d'autres groupes qui eux-mêmes suivent le même processus, et donc on va avoir des confrontations entre les nations. Et c'est effectivement cette dimension-là que l'idée européenne, le processus d'intégration européenne, essaye de transcender, d'écarter, et a réussi à écarter avec, je pense, un certain succès. Un dernier mot sur l'État-nation. Je pense que l'État-nation, ça a été, en tout cas, la forme moderne du politique. C'est notamment pour ça qu'on a essayé de l'exporter. En ce sens que, quelque part, l'État-nation y réunit ces trois éléments que sont le pouvoir, le territoire et la population. Et le pouvoir, c'est évidemment le gouvernement, ça a évolué, hein, tu parlais de Philippe le Bel, etc. Enfin, aujourd'hui, en principe, on a des gouvernements démocratiques qui ont un contrôle sur, non pas des personnes, aussi à l'époque, la féodalité, hein, on se contrôlait les uns les autres, mais sur un territoire. Et donc, le pouvoir et le territoire, c'est l'État. Et l'État démocratique, ben, il faut rajouter le démos, Et ce démos, on le construit, et là-dessus, là aussi, je me place en partie à une certaine distance de Rougemont. Il y a une interaction permanente entre l'État et la nation. Il y a beaucoup de nations qui ont été construites par la structure de l'État. Et la nation renforce l'État, donc il y a une dialectique, évidemment, entre l'État et la nation. Et donc, évidemment, si on a le pouvoir, donc le gouvernement, le territoire et la nation, alors c'est l'État national. Et ça, c'était une formule qui, effectivement, au 19e et au début du 20e, a dominé le monde, aujourd'hui, qui est largement remis en cause.
Voilà, vous relativisez quand même un peu les méfaits de l'État-nation. Et cette notion d'État-nation a été prévalente et toujours prévalente en Europe, mais elle a été aussi exportée. Et qu'est-ce qu'il en est dans les endroits où elle était exportée, notamment au Moyen-Orient? Est-ce que c'est aussi un mal?
Alors, je me retrouve dans une situation un peu étonnante, parce que normalement, je critique toujours l'État-nation, les méfaits dans la région moyen-orientale, mais en même temps, je pense que des fois, on simplifie un peu les choses et que c'est un petit peu plus complexe. Alors, je vais essayer, avec quelques touches, de mettre en avant ces complexités. Tout d'abord parce que si on observe ce qui se passe après la Première Guerre mondiale, il y a peu d'États au Moyen-Orient qui adoptent vraiment le modèle d'État-nation type modèle français. C'est uniquement la Turquie qui essaye de mettre en place ce système. Pourquoi ? Parce que la plupart des territoires du Moyen-Orient sont encore des colonies, ou alors sont sous mandat, donc ils ne sont pas souverains pour mettre en place un modèle comme celui de l'État-nation à la française. Donc on a en réalité, même lorsqu'ils pourront le faire, des systèmes hybrides, hein, notamment par exemple la permanence du système de millettes, donc de la protection ou de la, comment dire, de maintenir une représentation des minorités religieuses ou ethniques, notamment religieuses, dans les parlements qui existent encore aujourd'hui. Nous avons encore, dans des pays comme la Jordanie, des sièges réservés pour tel ou tel groupe. En Israël aussi, au Kurdistan irakien, au parlement du Kurdistan irakien aussi. Donc, au Liban, c'est un autre cas de représentation de différents groupes qui s'éloignent de ce modèle d'État-nation. Donc, ça, c'est une des premières choses. Donc, on ne peut pas mettre sur le dos le modèle d'État-nation tout le monde de la région, parce qu'en réalité, il a été très peu présent. Alors, peut-être, permettez encore deux touches. C'est qu'on a l'impression qu'on a importé un modèle de manière acritique, si on veut. En réalité, il y avait des courants politiques dans la région qui étaient très divers. Le modèle d'État-nation était défendu par certaines élites, mais il y avait d'autres visions aussi. Il y avait les libéraux ottomans, par exemple, qui défendaient, au contraire, plus de décentralisation, un petit peu, et qui regardaient vers l'Europe, aussi vers la Suisse. Par exemple, et je mets en avant cet exemple, puisqu'on est concerné, le prince Sabahattine, qui était de la famille du sultan, était le leader du parti libéral ottoman. Il a défendu la décentralisation comme solution déjà pour sauver l'Empire ottoman. Et aussi, si l'Empire ottoman venait à s'effondrer, pour les États-nations, pour les États qui apparaîtraient par la suite. Le prince Sabahattine a été influencé par différents modèles européens, notamment par la Suisse. Il est venu à Neuchâtel en 1924 et il est décédé ici à Neuchâtel en 1948. Donc il avait vraiment un attachement très fort au modèle suisse, helvétique. Troisième point, c'est que il ne faut pas oublier que certains de ces problèmes nationaux et très anciens, je pense notamment au conflit palestinien, ont été créés par les Européens, puisque le processus de dénationalisation de Palestiniens a commencé avec le mandat britannique en Palestine, c'est-à-dire que les Britanniques ont reconnu des droits nationaux aux Juifs, mais pas aux Palestiniens. Aux Palestiniens, on n'a reconnu que de droits religieux. Donc on a fait une séparation quelque part artificielle de ce point de vue. Et donc le conflit actuel qu'on vit encore, hein, presque tous les jours, n'est pas un conflit local, on va dire, a été celui-là exporté par les Européens. Voilà, je m'arrête là. Peut-être qu'il y aura des questions et je pourrai en revenir sur ces questions.
Voilà. Alors, quand on parle des empires qui ont été démantelés, hein, après la Première Guerre mondiale, évidemment, c'était des empires tellement grands qu'effectivement, ils ne pouvaient pas imposer leur vision politique, religieuse et leur langue à tout le monde. Et on a d'un côté des empires qui sont très grands, qui ne peuvent pas imposer leur structure à l'ensemble de leur territoire. Et on a d'un autre côté des petites entités et entre les deux, l'État-nation. Et justement, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ces États-nations, comment est-ce qu'elles traitent ? Vous avez dit qu'ils sont dangereux pour l'externe, mais parfois ils peuvent être dangereux aussi pour l'interne. Comment est-ce que ces États-nations traitent leurs minorités ? On a des exemples. Voilà, vous avez dit que vous étiez un spécialiste de la Catalogne, notamment. Peut-être que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe, les dangers de l'État-nation pour les minorités à l'intérieur de leur pays.
Alors effectivement, derrière l'idée nationale, en fait, il y a plusieurs idées nationales, hein, il n'y a pas un seul modèle national, et le modèle français est une sorte d'archétype d'une nation qui se voudrait homogène sur le plan culturel, historique, etc. Et on a tous cette caricature, hein, où dans les colonies françaises, on apprenait, nous les Gaulois, etc. Il est clair que dans les colonies, on n'était pas Gaulois. Donc, cette idée de nation, en fait, il y a plusieurs idées de nation. Et une des choses vraiment intéressantes aujourd'hui, je pense, au sein de l'Europe, et là-dessus, mais on aura, j'imagine, l'occasion d'y revenir, je m'inscrirai aujourd'hui, encore une fois, avec une certaine distance aux idées de Denis de Rougemont, en ce sens que je pense qu'on a besoin de réinjecter une dimension nationale en Europe. Et de ce point de vue-là, je pense que l'exemple catalan, mais aussi l'exemple écossais, et d'autres, mais qui sont moins visibles, sont des exemples extrêmement intéressants. En ce sens que si on regarde la nature de la revendication de ces deux nationalismes, ce ne sont pas, et j'ai des collègues anglo-saxons qui ont théorisé ça, ce ne sont pas ce qu'il appelle des nationalismes téléologiques, ou des nationalismes classiques, dont le but est de créer une nation qui va être l'expression de la souveraineté d'un peuple, mais ce sont au contraire une expression d'une volonté nationale qui s'inscrit dans le projet européen. Et là, je pense qu'on a un enjeu important, c'est un enjeu qui se pose aujourd'hui à l'Espagne, en ce sens que je pense que le projet national ou étatique espagnol est un projet qui a été adopté dans une circonstance particulière et qui a été efficace à son origine, à savoir effectivement permettre, sans conflit interne, la transition d'un système autoritaire, le franquisme, vers un système démocratique. Et donc il y a eu effectivement des compromis qui ont été faits à cette époque et qui ont été acceptés par tout le monde. Mais ces compromis, me semble-t-il, et je crois que si on observe ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit en Catalogne ou dans l'ensemble de l'Espagne, ne permettent plus au projet espagnol, dans son ensemble, de fonctionner. Et dans le cadre de ces tensions, les Catalans, qui avaient accepté, au sortir de la dictature, donc dans les années 70, le compromis pour la sortie de la dictature et le modèle d'une Espagne avec des autonomies régionales, les Catalans ont considéré qu'il fallait aller au-delà, que le projet national espagnol ne fonctionnait plus. Pour rappel, c'est les gouvernants de la Catalogne qui, à partir des années 80, donc très rapidement, hein, après la sortie du franquisme, sont les grands promoteurs au niveau européen de l'idée de l'Europe des régions. Et c'est notamment le président Pujol qui crée l'Assemblée des régions d'Europe, etc. Donc l'Europe des régions, c'est l'idée de la Catalogne, c'est une idée qui, évidemment, est proche des idées de Rougemont, de favoriser un modèle d'autonomie régionale dans une Europe intégrée. Projet qui va plus ou moins s'étioler, dans les années 90, notamment parce que en Europe de l'Est, on voit apparaître plein de nouveaux États. Petits États, nouveaux, que l'Union européenne va absorber en son sein. Et donc, évidemment, beaucoup de régionalistes européens, tout d'un coup, disent « Mais pourquoi nous, 8 millions et quelques de Catalans, on va compter moins que 1,5 million de Lituaniens ? Pourquoi nous, Bavarois, et les Bavarois, eux, qui n'ont pas accepté le compromis après la Deuxième Guerre mondiale, ils n'ont jamais voté la loi fondamentale, le Parlement bavarois. Pourquoi est-ce qu'on devrait accepter d'être représenté par l'Allemagne ? Donc, on a tout d'un coup une sorte de glissement du modèle européen qui est très bien perçu par ces peuples qui n'ont pas d'État et qui se disent ben, on était prêt à un autre modèle, mais finalement peut-être que ça serait plus rationnel d'avoir notre propre État et de rejoindre l'Union européenne. Ils ne sont pas entièrement convaincus, et notamment alors, si on regarde les Catalans proposent au début des années 2000, à partir de 2003, une modification des règles institutionnelles internes à l'Espagne, une modification du statut d'autonomie de la Catalogne. Et ce statut d'autonomie est négocié entre Catalans, etc., et ensuite soumis aux autorités politiques de l'Espagne et accepté par les autorités politiques espagnoles de l'époque. Mais ensuite, il y a un recours qui est formulé en 2006 auprès de la Cour constitutionnelle qui va prendre 4 ans pour rendre une décision disant le nouveau statut de la Catalogne, qui notamment reconnaissait une nation catalane, mais pas une nation qui réclamait un État souverain, une nation catalane, ce statut est illégal, inconstitutionnel au regard de la Constitution espagnole. Et donc c'est à partir de ce moment-là que les forces autonomistes catalanes, qui étaient, il y avait très peu d'indépendantistes jusqu'à ce moment-là en Catalogne, glissent en disant bah, « si ce n'est pas possible d'avoir plus d'autonomie dans l'Espagne telle qu'elle est, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas d'avoir une représentation directe, mais toujours dans l'Union européenne ?» Donc une sorte d'autonomie dans l'Union européenne. Et ce nationalisme-là, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas le confondre avec le nationalisme qu'on retrouve beaucoup plus au niveau des États membres. Et d'ailleurs, une des choses intéressantes qui se passe en Espagne, moi je suis un observateur, je ne suis ni espagnol ni catalan, mais effectivement je m'intéresse beaucoup à ce qui s'y passe, c'est l'émergence forte d'un nationalisme espagnol en réaction au nationalisme catalan. Et effectivement, on trouve toujours ces États-nations. Il y a un nationalisme français, on voit les partis qui le représentent. Il y a un nationalisme allemand qu'on voit de nouveau émerger, etc. Donc il y a un retour du nationalisme au niveau des États-nations, membres de l'Union européenne, en partie en réaction à cette demande nationale, mais qui, elle, était originale, qui était, encore une fois, ce qu'on appelle ce nationalisme réflexif, nationalisme civique, qui demande le droit de participer volontairement, pleinement, à la construction européenne. Et dans un système de type fédéral, c'est possible. Si vous voulez, je peux vous l'expliquer, mais ça sera un tout petit peu plus long. Donc, s'il y a des questions là-dessus, j'y reviens volontiers, mais sinon, admettons qu'on en reste là. Et alors, le cas, évidemment, le plus intéressant, parce que finalement, cette demande, c'est le droit de décider si oui ou non on veut être pleinement partie prenante au projet européen. Et l'exemple, pour moi, qui est un archétype, c'est évidemment les Écossais, à qui on a reconnu le droit de voter, mais à qui on a dit « si vous votez pour quitter le Royaume-Uni, alors vous quitterez l'Europe », ce qu'ils ne voulaient pas. Et donc, il y a eu un vote absolument démocratique, etc., très clair, en 2014, en septembre 2014, dans lequel, grosso modo, 55% des Écossais ont dit ben, « non, on préfère rester dans le Royaume-Uni et dans l'Europe », mais on sait tous qu'en juin 2016, le Royaume-Uni, dans son ensemble, a voté pour quitter l'Union européenne. Et les Écossais, ben, ils sont entraînés dans le mouvement, même si 62% des Écossais ont voté contre la sortie de l'Union européenne. Et donc là, on voit cette demande de dire ben, pourquoi est-ce qu'on devrait être lié notre destin, nous qui nous considérons comme une nation, la nation écossaise, la nation catalane, donc on a un projet de société commun, pourquoi est-ce qu'on devrait être lié au destin qui de l'Espagne, qui du Royaume-Uni. Et de manière très intéressante, et j'en termine, j'ai vu très récemment un sondage qui a été fait parmi les électeurs britanniques, anglais, donc non écossais, qui ont voté en faveur du Brexit, parmi ceux-ci, il y en a 88% qui sont en faveur de l'indépendance de l'Écosse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est le sentiment national anglais, qui d'ailleurs n'existait pas vraiment, parce que l'Angleterre en tant que nation n'a jamais vraiment existé. Il y a toujours eu l'Empire, puis on s'est petit à petit replié, etc. Donc on a ce phénomène action-réaction, quelque part, cette demande d'un nationalisme original dans le cadre européen qui, à mon avis, est intéressant. Après, je peux me tromper, il peut y avoir des excès, etc., mais qui est vraiment quelque chose de différent du nationalisme classique et en réaction, la remontée des nationalismes classiques. Donc on est sur un moment, pour les observateurs, en tout cas pour l'observateur que je suis, qui est extrêmement intéressant, mais extrêmement problématique.
Voilà, j'aimerais revenir à, merci beaucoup, j'aimerais revenir à la pensée de Denis de Rougemont. François Saint-Ouen, dites-moi, Denis de Rougemont opposait État-nation et fédération de régions. Alors, qu'est-ce qu'il entendait exactement par fédération de régions indépendantes ? Et je sais qu'il ce qu'il ne voulait absolument pas, justement, que ces régions deviennent de mini-États-nations qui se superposent, qui s'additionnent les unes aux autres. Donc, l'idée, c'était pas de diviser un État-nation en de multiples petits États-nations. Alors, quelle était la vision de Denis de Rougemont ?
Alors, je reprends le fil des discussions qu'il y a eu juste avant. Donc, Rougemont attaque l'État-nation, il n'attaque pas les nations en tant que telles. Ça, c'est très important. Les nations, en tant que telles, ont leur place dans une Europe fédérée. Les États-nations, dit-il, en fonction de leur logique politique et de l'exclusion à l'extérieur et de la mise au pas des minorités à l'intérieur et de toutes les différences, les États-nations sont incapables de s'unir de manière organique. C'est ce qu'il appelle l'amicale des misanthropes, et ce pourquoi il pense qu'une fédération d'États-nations, comme ça a été proposé par certains, soit pour décrire l'Union européenne, soit pour la prôner, est quelque chose qui ne mène à rien, qui n'a pas de sens dans sa pensée. L'État-nation est incompatible avec l'idée fédérale, c'est ça l'État-nation, pas la nation, et pas les régions transfrontalières non plus, ça c'est très important. Alors, il pense que ce modèle, qu'on va appeler pour faire simple napoléonien, est devenu incompatible avec la réalité d'aujourd'hui pour deux raisons essentielles, c'est qu'il est soit trop petit, soit trop grand. Il est trop petit à l'échelle de l'évolution du monde et à l'échelle des technologies. Il est devenu trop grand pour répondre aux besoins d'engagement civique des citoyens. On retrouve ce genre de problématique que nos démocraties doivent affronter. Et il pensait aussi... beaucoup, il a réfléchi sur le début de l'informatique, c'est-à-dire les ordinateurs. Il disait, le fédéralisme, ce seront les régions plus les ordinateurs. C'est-à-dire, les ordinateurs donnaient un outil, et donnent un outil extraordinaire de participation civique, de mise en réseau des gens, et les ordinateurs sont aussi un élément essentiel pour gérer la complexité sans devoir la simplifier. Voilà. Donc,
et pratiquement, je m'excuse, pratiquement, ça voudrait dire quel genre de modèle il prônait ? Est-ce que quelque chose qui ressemblait à la Suisse ou de près, de loin
de... de près, de loin, un petit peu. Il pense un peu à la Suisse, mais le modèle de la Fédération de Rougemont est de bas en haut. Il est fait de petites communautés civiques qu'il appelle régions, qui peuvent ensuite s'étendre de proche en proche à des nations authentiques, des nations de volonté, on va dire, et qui s'agrègent petit à petit à d'anciennes nations, États-nations, qui peut être la nation espagnole, s'ils le souhaitent ou pas, et petit à petit, on arrive à l'échelle européenne, de fédération de toutes ces poupées russes que sont ce qu'il appelle régions.
Et est-ce que ce système, ça pourrait résoudre, par exemple, le problème catalan ou
Probablement, mais il faudrait qu'il y ait une volonté à tous les étages. Et actuellement, on voit bien, notamment pour des raisons alors de politique politicienne, qu'il y a un certain nombre de partis au niveau national espagnol, à Madrid, qui prospèrent sur l'idée qu'ils sont le rempart contre la volonté des Catalans d'être mieux associés au processus européen. Mais en soi, bien sûr, ça serait possible.
Voilà, très bien. Et est-ce que, alors bien sûr, on est dans un monde idéal où la théorie serait mise en pratique. Est-ce que cette vision des choses pourrait aussi être une solution qui pourrait résoudre des problèmes au Moyen-Orient ?
Alors, des solutions ont été déjà pensées par les acteurs de la région. Il y a le fédéralisme qui a été inscrit, par exemple, en Irak depuis 2005. Donc la Constitution est fédérale. Le problème, et ça rejoint un petit peu le cas en Espagne, c'est les relations de pouvoir aussi. Nous pouvons avoir une Constitution qui est très jolie, très utopique, très dans les principes, mais après, si la lecture qu'on fait de cette Constitution est une lecture restreinte, très limitée, et que le pouvoir réside quand même dans l'État central, alors cette autonomie ou cette décentralisation est sérieusement limitée. Et donc ça crée des conflits. Ça, c'est une chose. Après, de manière intéressante aussi, dans la région, il y a une volonté d'aller au-delà même de l'État-nation. Et par exemple, chez les Kurdes, depuis les années 2000, on a pensé une sorte de ce qu'ils appellent le confédéralisme démocratique. Et en fait, est inspiré par beaucoup de sources, ça pourrait être probablement Denis de Rougemont, et ils ne le disent pas, mais en tout cas des idéaux aussi de type d'inspiration anarchiste, c'est-à-dire de nouveau, la prise de décision commence par le bas, au niveau des communes, et ça remonte ainsi de suite. Et de manière aussi peut-être originale, c'est que c'est un modèle non territorial. C'est-à-dire qu'on peut s'organiser de cette manière-là sans prendre en considération s'il y a une administration régionale, un État, etc. Donc, il y a une remise en question de l'État-nation territorial, tel qu'on l'a connu depuis le 19e siècle. Mais voilà, ça vient un peu de minorités qui ont peut-être intérêt à dépasser ce modèle. Mais peut-être finir avec une autre touche, c'est que l'État-nation ou les États actuels au Moyen-Orient sont devenus une réalité symbolique et matérielle pour la plupart de la population. Et ça, on a tendance à penser qu'ils ne veulent pas, qu'ils n'ont pas compris, qu'ils ne se sont pas bien adaptés à l'État-nation. Ce n'est pas vrai. Pensez aux révoltes arabes de 2011, par exemple, et... ce qui est remis en question, c'est le régime, pas l'État. Au contraire, on veut un État qui protège la population. Donc, ces États-là sont quand même un référent important pour la population. Et peut-être ce qui... là, je vais parler des minorités, par exemple les Kurdes, mais chez la majorité, si vous voulez, la population, par exemple, arabe, depuis les années 90, on voit bien que il y a des mouvements, ce qu'on appelait ici à l'époque les nouveaux mouvements sociaux, qui cherchent à établir des relations nouvelles entre les citoyens et l'État. C'est-à-dire que la nation, ce n'est pas si important que ça. Il y a d'autres questions qui sont très importantes pour les citoyens, par exemple, des identités sexuelles, le mouvement de gays et lesbiennes qui est apparu dans ces pays. Les questions de l'environnement, des questions de la société civile, de décisions sur la vie des quartiers, etc. Donc il y a une remise en question de vieux modèles de nationalisme arabe, etc., dans la région. Et donc une recherche, je dirais, d'un rôle plus important de l'individu. Et un individu qui peut parler à l'État, et un État qui doit être plus transparent et aussi entrer en dialogue avec ses citoyens.
Merci beaucoup. On va peut-être passer, si vous voulez ajouter quelque chose, dites-moi, sinon on va passer aux questions de la salle, comme ça ce sera un dialogue entre vous et les intervenants. Si vous avez des questions, Monsieur Schlebny va vous donner le micro. Est-ce que quelqu'un aurait une question déjà ou... Oui, alors je crois que ce sera plus simple.
C'est gentil, merci. Oui, le problème de l'Europe actuelle, c'est la grande centralisation. Nous avons entendu M. Chirac à plusieurs reprises à Paris autrefois. Il avait dit que lui-même n'a jamais voulu s'occuper de la chasse, de quand on avait le droit de chasser. Il laissait ça au préfet. De même, si on a le droit de se baigner à Knokke-le-Zoet, c'est décidé à Bruxelles. Alors qu'en fait, chez nous, c'est décidé par les communes. À Genève, on risque d'attraper une tuberculose intestinale parce que Genève reçoit le lait du canton de Saint-Gall et de la zone franche qui est donc 30 km autour du canton. Et si on découvre une vache qui a la tuberculose dans la zone franche, le vétérinaire communique ça au ministère à Paris. Et jusqu'à ce que l'ordre revienne de Paris de tuer la vache, il faut une année. Alors que chez nous, si le vétérinaire diagnostique ça, la vache est supprimée le même jour. Donc il y a quand même un avantage au fédéralisme par rapport à un centralisme trop fort, comme c'est le cas par exemple en France actuellement. Merci.
Si vous me permettez de répondre sur ce point-là, je suis entièrement d'accord avec vous, hélas. Et je pense que là, il y a eu historiquement un problème avec ceux qu'on appelle les fédéralistes européens, qui ont mélangé une série de choses et qui ont oublié ce qu'était le fédéralisme. Alors évidemment, le souci des fédéralistes européens, c'était d'affaiblir les États-nations au sein de l'Europe. Et donc, ils ont énormément poussé. Ils se sont d'ailleurs pratiquement intégrés à ce qu'on appelle le mouvement européen, qui lui n'est pas fédéraliste, et donc l'idée c'était de transférer toujours plus de compétences à Bruxelles, enfin à l'Europe, pour affaiblir les États-nations. Et effectivement, c'est un modèle qui, malheureusement, est très centralisateur. On a beau avoir ex post introduit un principe de subsidiarité, etc., l'Europe institutionnelle telle qu'elle est construite aujourd'hui est un modèle centralisateur. Et d'ailleurs, par rapport à la question nationale, ces mouvements pro-européens, y compris une bonne partie des fédéralistes européens, mais encore une fois, qui ont oublié ce qu'était le fédéralisme, je rappelle que le fédéralisme, c'est notamment cette idée d'un équilibre des pouvoirs, et non pas d'une centralisation permanente. D'où d'ailleurs une difficulté que j'ai quand je lis les traités, mais je dois être un des seuls, quand vous lisez l'article 1er du traité, on parle d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe. Un fédéralisme, ça ne peut pas être sans cesse plus étroit. Il faut qu'il y ait un équilibre à un moment. Et donc, effectivement, les fédéralistes européens, ils sont pour l'union sans cesse plus étroite parce qu'ils ont oublié qu'ils étaient fédéralistes. Il y a eu une... Enfin, François en parlera mieux que moi parce qu'il connaît très bien l'histoire des mouvements fédéralistes européens, mais il y a vraiment eu une erreur de perspective. Et alors, pour ceux-ci, l'idée nationale, c'est l'idée de construire une sorte de nation européenne. Et alors là, je reviens à l'union sans cesse plus étroite pour des peuples de l'Europe. Le sans cesse plus étroite, on peut le discuter. Par contre, c'est clair que c'est une union des peuples. Ce n'est pas de créer un nouveau peuple européen. Et ce fantasme-là qu'on va avoir une Europe, une sorte de nation européenne, ça serait effectivement l'Europe à la française, si vous voulez. C'est tout simplement non viable. Ça, c'est un vieux problème de la théorie politique. Déjà, Jean-Jacques Rousseau se demandait comment est-ce qu'on allait faire pour transférer au niveau des États qui étaient de plus en plus grands la démocratie, qui était à l'origine conçue comme la discussion sur la place publique dans chaque cité. Donc c'est un vieux problème, mais vous avez absolument raison. Malheureusement, et quels que soient les discours, y compris des fédéralistes européens, il n'y a pas une véritable conception fédéraliste aujourd'hui de l'Europe, et c'est une erreur.
Je vais rajouter juste deux, trois mots, donc entièrement d'accord. Alors, dans les fédéralistes que Nicolas Levrat a mentionnés, il n'y a pas Denis de Rougemont qui a une conception totalement différente du fédéralisme européen. Juste en deux mots, la finalité de la centralisation ou de l'État-nation, si vous voulez, pour Denis de Rougemont, c'est la puissance collective. J'ai des textes, je les cite. Et la finalité de la fédération du fédéralisme, ce sont non pas la puissance collective, mais les libertés locales. Alors évidemment que sa notion du fédéralisme n'est pas celle des militants fédéralistes européens qui ont été dépassés par leur combat contre les États. Ils voulaient créer quelque chose au-dessus des États et ils ont prêché finalement un super État européen, ce qui n'est pas dans l'approche de Denis de Rougemont du fédéralisme, je suis entièrement d'accord.
Oui, je crois pas que ça marche. Ça marche ? Oui, alors voilà, fantastique. Oui, j'ai un petit problème, moi, c'est que je me demandais de quelle nation je faisais partie. Et j'ai un peu réfléchi, je me suis demandé si je faisais partie d'une nation suisse, j'ai l'impression qu'il y a... Il n'y a pas tellement d'unité à ce niveau-là, donc je me verrais mal faire partie d'une nation suisse. Je me demandais si je faisais partie d'une nation romande,
pas tellement non plus. Je suis pas très proche des Valaisans catholiques. Je me demandais si je faisais partie d'une nation neuchâteloise. C'est compliqué avec le haut toujours. Donc est-ce qu'il y a une nation neuchâteloise? C'est compliqué. Même sur le littoral, on s'entend pas toujours très bien. Donc c'est cette notion de nation qui m'a un peu titillé. Je me demandais finalement comment on la définissait. Et puis si les critères n'étaient pas un peu vagues, et est-ce qu'il y a vraiment des unités nationales qui existent?
Alors, je rebondis aussi avec ce qui a été dit avant. En tout cas, dans la conception de Rougemont, dans le fédéralisme, il n'y a jamais de réduction à l'unité. Vous êtes une personne, un individu, une personne, et vous avez ce qu'il appelait une pluralité d'allégeance. Vous n'êtes pas obligé de choisir exactement entre votre petite patrie, une patrie un peu plus grande, votre patrie culturelle, etc. Tout ça, c'est un ensemble de boîtes qui doit se faire naturellement. Rougemont écrit, ma petite patrie, c'est Neuchâtel. Mon allégeance politique, c'est la Suisse, puisque Neuchâtel fait partie de la Suisse. Mais mon allégeance en tant qu'écrivain français, c'est la francophonie. En tant que protestant, c'est une allégeance universelle. Et j'ai un réseau d'amis, j'ai des tas de choses qui n'ont pas de frontières du tout. C'est-à-dire l'individu n'est pas mettable en frontières et n'est pas réductible à l'unité. Le fédéralisme, c'est la complexité et la mise en tension de ces différences et de leurs conflits. Et jamais la réduction de l'un des termes du conflit. Ça, c'est du centralisme, ça, c'est de l'unitarisme. Voilà.
Et si je puis ajouter encore un mot, et je comprends très bien votre dilemme, je le partage personnellement, quelque part, l'idée de l'État-nation, c'est que l'État-nation, c'est un ensemble politique qui est l'expression de la volonté souveraine de la nation, ou du peuple, du démos. Une construction fédérale, c'est au contraire l'union volontaire de groupes, ça peut être effectivement des villes, des cantons en Suisse, des États en Europe, etc., qui vont volontairement renoncer à l'exercice de leur souveraineté pour exercer en commun un pouvoir qui n'est pas souverain. Et il y a notamment, alors c'est très étonnant, un théoricien du droit français qui en 2007, il s'appelle Olivier Beau, c'est un spécialiste de la souveraineté et il a réfléchi sur le fédéralisme en disant mais il y a quelque chose qui ne va pas, je ne peux pas comprendre comment on concilie le fédéralisme et la souveraineté, et il a raison évidemment, et il a écrit une théorie de la fédération où il dit en fait on commet une erreur quand on parle d'État fédéral, il y a deux modes d'organisation complètement différents des sociétés, il y a le mode étatique qui amène inéluctablement, si on veut être démocratique, à la nation et à l'État-nation, expression de la souveraineté. Et il y a le mode fédéral qu'on ne doit pas penser. Quelque part, il dit l'État fédéral, c'est un oxymore. Une fédération, ce n'est pas un État, c'est autre chose. Alors, évidemment, il ne nous dit pas quoi. Et comme ça fait 4 siècles qu'on pense dans la logique de l'État, on a de la peine à se dire c'est quoi cette autre chose. Mais je pense qu'il a son intuition est juste. Et donc, votre réflexion est tout à fait correcte aussi. Justement, dans une fédération, et Olivier Beau nous dit probablement que l'Union européenne devrait être une fédération. Est-ce qu'il ressemble plus à une vraie fédération? C'est la Suisse. Et il est très fasciné par la Suisse, il nous étudie beaucoup, etc. Mais probablement que dans une fédération, justement, cette allégeance à un groupe qui va ensuite exprimer sa souveraineté n'a pas de sens. Au contraire, les souverainetés s'évaporent dans une fédération. C'est le but de la fédération, en tout cas en interne. Et un exemple, enfin en tout cas un cas absolument fascinant pour moi, et je ne sais pas comment ça va finir, mais si on prend au sérieux l'hypothèse d'Olivier Beau, ça veut dire que, n'en déplaise au sujet de Sa Majesté, les Britanniques n'ont pas de souveraineté à récupérer puisqu'elle s'est évaporée. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à faire un Brexit. Parce qu'ils sont déjà dans cette fédération où il n'y a plus de souveraineté. Et ils pataugent dans la semoule, ils vont patauger longtemps dans la semoule, parce que, ou alors ils reviennent vraiment à une idée d'un État national, mais qu'ils n'ont jamais eu. Donc, vous avez raison, c'est ces deux modèles qui sont foncièrement et je dirais originellement antinomiques. Je sais pas si vous voulez.
Alors, juste ajouter par rapport à votre mal-être identitaire, c'est un petit peu celui qui, si je pense aux Ottomans, à la fin de la Première Guerre mondiale, justement, le passage d'un empire qui était non national, forcément, à des États-nations, ça a été un traumatisme. Parce que, et peut-être c'est là le point que je veux faire aussi, c'est que là, ils n'ont pas eu le choix, en quelque sorte. En quelques années, d'une part, vous aviez des intellectuels qui hésitaient, hein, qui étaient membres de beaucoup d'associations, de comités, pour sauvegarder l'Empire, pour créer telle ou telle nation. Donc il y avait beaucoup d'hésitations, il y avait beaucoup de débats, qu'est-ce que, vers où on va. Mais la plupart de la population, qu'ils aiment ou pas, ils ont dû s'adapter à des nouveaux États-nations. On ne leur a pas demandé, vous êtes maintenant Irakien, maintenant vous êtes Syrien, etc. L'Empire est terminé, et désormais vous êtes... vous appartenez à cet État. Donc ça a été vécu, et quand on lit les sources de l'époque, c'est vraiment un traumatisme. Mais d'une part, l'hésitation, qu'est-ce qu'on doit faire, mais d'autre part aussi le fait que finalement, on a choisi pour vous. Hein. Voilà. Donc il y a des cheminements très différents par rapport à cela.
Il y a quelque chose que je regrette un tout petit peu dans tout ce débat, c'est qu'au fond, on est tous à peu près d'accord, en tout cas pour dire que l'État-nation, au sens fort, c'est pas bien. Alors, c'est très bien d'en discuter entre nous, mais le grand problème, ça reste quand même de persuader les Européens, ceux qui prétendent faire l'Europe sur ce modèle, qui se trompent complètement. Et là, il y a énormément à faire. J'ai pu me rendre compte, ça peut paraître caricatural, mais j'espère que tous les Français ne pensent pas comme ça, mais il y a beaucoup de Français pour qui le mot fédéralisme est tout simplement un gros mot. Un gros mot qui rime avec féodalisme. Et le problème, c'est que pour eux, l'État-nation, c'est le progrès. Et on le voit encore dans des livres de vulgarisation historique, on ne peut pas, on ne parvient pas en France à dépasser cela. Tout essaie de faire autre chose est considéré comme une régression. Et dans le pays de la Révolution française, c'est quelque chose d'absolument impossible. Le fédéralisme est un féodalisme. Il revient à d'anciens atavismes. Et j'y pensais tout à l'heure quand vous parliez de l'Europe des régions. Dans le fond, est-ce que l'idée de région, selon Denis de Rougemont, n'a pas quelque part un petit peu quelque chose à voir avec les anciennes provinces françaises? Mais alors à ce moment-là, si on dit ça, c'est un tabou qu'il ne faut absolument pas évoquer parce qu'on a immédiatement tout le monde contre nous. Il y a un autre modèle qui est intéressant et dont on ne parle pas assez, peut-être parce que justement c'est un modèle qui n'a peut-être jamais vraiment marché, mais c'est le modèle du Saint-Empire. Le modèle du Saint-Empire, pourtant on devrait être bien placé en Suisse pour le savoir, mais on a aussi tout fait en Suisse pour l'oublier, parce qu'on a fait de 1291 la date d'une déclaration d'indépendance, alors que c'était tout le contraire. En 1291, les Suisses voulaient justement, étaient les plus fervents admirateurs du système impérial. La crainte qu'ils avaient, c'est que les Habsbourg n'étant plus empereurs, ils avaient peur de perdre l'indépendance relative que leur garantissait. Enfin bon, je ne vais pas reprendre toute l'histoire, tout le monde sait ça. Sauf qu'il faut quand même le rappeler parce que 1291 n'a rien à voir avec la naissance d'une nation. Et ce modèle, alors voilà, ces modèles féodaux et ce modèle impérial médiéval, il est très difficile de les invoquer. C'est beaucoup plus simple d'invoquer le modèle suisse. Et pourtant, il y a là, me semble-t-il, des choses qui ont marché. Il y a d'autres écrivains suisses. Je pense par exemple, bon, un écrivain extrêmement paradoxal, mais comme Charles-Albert Singria, qui était assez ami avec Denis de Rougemont. Alors, je ne sais pas si Denis de Rougemont le considérait comme autre chose qu'un doux rêveur, mais il y a quelques phrases de Singria où il dit, mais le modèle impérial médiéval, c'était pas si mal. Il y avait une sorte d'équilibre. Alors, c'est peut-être un vœu pieux, c'est peut-être quelque chose qu'il ne faut pas invoquer du tout. Je reviens sur ma première remarque et je vous laisse la parole. Comment persuader les constructeurs, en particulier les Français de l'Europe, que la construction de l'Europe, ce n'est pas un retour à des choses qui représentent pour eux l'abomination de la désolation?
Je pense que pour nos voisins et amis français, et sachez-le, je suis aussi français, j'ai une double nationalité, comme beaucoup de monde à Genève. C'est, si je puis dire, ma solution individuelle à l'intégration européenne, comme beaucoup des autres qui ont une double nationalité. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle l'idée que la Suisse doit adhérer à l'Union européenne a été abandonnée, parce que les élites dont je fais partie ont trouvé des solutions individuelles, la plupart. Hein, et donc, effectivement, bah, tant pis pour ceux qui ne sont pas dans l'Europe, les autres, on a un pied dedans, un pied dehors. Cette parenthèse étant faite, je pense que nous serons tous d'accord, et c'était une des idées de Rougemont, que la culture est un élément extrêmement important, extrêmement fondateur de notre perception du monde. Et dans culture, il y a en fait beaucoup d'éléments, dont un élément fondamental de culture politique. Et effectivement, les Français ont une culture politique qui ne connaît pas le fédéralisme, ne comprend pas le fédéralisme. Et très curieusement, par exemple, vous avez actuellement un président de la France qui est très pro-européen, qui aimerait une Europe puissance, qui aimerait en fait une Europe souveraine, il le dit. Et quand vous parlez à ses proches, je ne sais pas que c'est direct à lui, mais je dis, mais c'est très bien une Europe souveraine, mais donc ça veut dire que la France serait plus souveraine. Ah si, 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 la France serait souveraine dans une Europe souveraine. Donc, évidemment, ils ne peuvent pas comprendre. On voit bien que ce n'est pas possible d'être souverain dans un souverain. Mais pour eux, effectivement, un modèle comme un modèle fédéral, ils n'ont juste pas cette culture politique. Les Britanniques, on a le même problème. Pour eux, le F-word, certains parlent du F-word, le fédéralisme, parce que le fédéralisme moderne, c'est en fait inventé aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, c'était quand même la plus belle colonie de l'Empire britannique, qui perdent, et donc pour eux, c'est une blessure, ils sont foncièrement antifédéralistes. Donc il y a effectivement, dans beaucoup d'États européens, soit une ignorance du fédéralisme, soit une peur ou un rejet du fédéralisme. Donc vous avez raison là-dessus. Maintenant, les idées de retour à des systèmes de type impérial, non, l'Europe n'est pas un empire. Le Saint-Empire romain germanique, alors je ne suis pas un spécialiste de l'histoire, mais était manifestement ni démocratique, ni fondé que sur des allégeances volontaires, alors que l'Union européenne, au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui permet aux Suisses d'ailleurs de ne pas être dedans, et je respecte absolument la volonté des Suisses, même si personnellement je regrette, parce que je pense que c'est un beau projet l'Europe, mais évidemment les Suisses sont absolument libres de ne pas être dans l'Europe. C'était un peu plus compliqué quand vous étiez au milieu de l'Empire, etc. Donc, il y a peut-être des éléments intéressants, mais je pense que l'Europe devrait avoir l'intelligence, le courage d'inventer son propre modèle politique. Je sais que c'est difficile, j'y travaille régulièrement, et j'avoue, je n'ai pas une idée géniale, hein, sinon ça se saurait, mais je pense que c'est vraiment avec des éléments nouveaux qu'on va construire l'Europe. Alors on peut s'inspirer, on peut étudier ce qui a déjà existé, mais on ne refera ni un empire, ni une grande fédération européenne au sens où on entend justement la fédération comme État fédéral avec plus ou moins ce modèle qui est les États-Unis d'Amérique.
J'ai rajouté juste un mot, alors je ne reviens pas sur le Saint-Empire. D'ailleurs, Rougemont disait du bien du Saint-Empire romain germanique, mais bon, passons là-dessus, parce qu'effectivement, nous ne sommes plus à l'époque où on peut dire que l'avenir de l'Europe va être un retour au Saint-Empire. Ça ne me paraît pas un projet politique qui soit possible ou attirant. Il y a un grand décalage. Ce que disait Rougemont, c'est qu'on n'arrive pas à innover en matière politique comme on le fait dans d'autres domaines, dans le domaine des idées philosophiques, dans le domaine des arts, etc. On en est toujours aux structures qu'on a inventées au 19e siècle, alors que la technologie a tout bougé autour de nous, sauf les instruments politiques. Alors ils disent. Et peut-être tu y ajoutes les universités, il ajoute. Bon, bah, alors je lui laisse la responsabilité de ces assertions. Mais là, il y a quelque chose de très très compliqué parce que il y a deux symptômes qu'il y a une crise des systèmes politiques, et c'est pas uniquement une crise de l'Europe en tant qu'Union européenne. C'est que dans la plupart de nos États, il y a de plus en plus d'abstention aux élections traditionnelles, donc des gens qui se mettent en dehors de l'activité qu'on attend du citoyen, les abstentionnistes massifs, de plus en plus, et l'apparition de nouveaux mouvements politiques, en général protestataires au départ, qu'on ne sait pas qualifier, qui sont extrêmement divers dans leur motivation, extrêmement mouvant et extrêmement performant, que faute de mieux on appelle des populismes, qui sont aussi un deuxième symptôme avec l'abstention. Si vous additionnez la fortune des populistes et la fortune de l'abstention, ça veut dire qu'au niveau national aussi en Europe, dans beaucoup de pays, il y a un décalage entre ce qu'attendent les citoyens, leur vécu pour parler comme les médias, et l'offre des institutions politiques traditionnelles qui remontent à la pensée du 19e siècle. Ça, c'est véritablement un enjeu. Et malheureusement, le mot fédéralisme est piégé, pas seulement en France, à cause notamment de l'utilisation fautive qui a été faite par les mouvements européens intégrationnistes et non pas fédéralistes. On ne peut plus employer le mot, il faut en employer un autre, sinon on est disqualifié d'avance.
Merci. Oui, alors j'aimerais rebondir là, parce que c'est très intéressant ce que vous dites. On peut voir que l'État-nation, enfin, il apparaît en crise aujourd'hui. Il se montre incapable de faire face aux défis globaux. On a tous les défis qu'on connaît, hein, qui sont liés au climat, la pollution, biodiversité, enfin la relation de l'humanité avec la planète. Et puis il me semble que de Rougemont identifiait d'ailleurs cette impuissance de l'État-nation à faire face à ce type de problématiques. Et puis maintenant, alors évidemment, les citoyens ont peut-être de la peine à trouver dans l'État-nation le lieu de leurs préoccupations. Et ça peut expliquer, disons, ce que vous venez de dire. Par contre, si on regarde les groupes qui amènent des ébauches de solutions à des problèmes globaux, on pense à des... ces petites communautés en Angleterre qui, par exemple, lancent une monnaie locale, où enfin, il y a différents projets, et ces projets, ils émergent vraiment au niveau local. Ils émergent dans des petites communautés, mais le défi d'aujourd'hui, peut-être, c'est de... On ne sait pas comment ces solutions locales, pour reprendre évidemment le titre d'un film qu'on a vu, on ne sait pas comment donner plus de mouvement, de momentum à ces initiatives, comment aller au-delà de la petite communauté qui a trouvé une petite solution locale. Alors maintenant, moi je trouve qu'il y a un parallèle intéressant avec probablement les idées de Denis de Rougemont, mais maintenant, comment est-ce qu'il y a dans sa pensée des idées qui nous donneraient des pistes pour aller plus loin, pour développer à plus grande échelle ces solutions locales.
Vous me posez une colle, puisque Rougemont c'est pas un penseur qui vous donne des solutions clés en main, vous voyez, on a juste à appliquer. Et il n'énumère pas un programme politique avec 65 points, etc., avec réponse à tout, et puis il faut appliquer pour que ça aille mieux. Ce n'est pas du tout ça. Ça va d'ailleurs à l'encontre de la responsabilité personnelle qu'il prône, c'est-à-dire c'est notre affaire. Et dans son bouquin, justement, son livre « L'avenir est notre affaire » de 1977, il parle par exemple des monnaies locales. Donc, ce n'est pas nouveau, cette histoire-là. Effectivement, le grand truc de Denis de Rougemont, c'est que l'auto-organisation de la société, c'est-à-dire la communauté des personnes, comment vous êtes capable de vous auto-organiser pour éviter qu'un pouvoir central ne vous organise à votre place. C'est ça, l'idée. Hein. Mais le problème, c'est comment on passe. Alors là, il n'offre pas la solution. Je ne l'ai pas. Comment on passe de cette échelle sympathique, intéressante, qui peut être des ONG aussi dans d'autres domaines, hein, de cette échelle locale à une échelle plus grande, à une échelle pour l'Europe continentale. Ça, je n'ai pas la réponse, mais c'est un défi, effectivement. Et l'idée, justement, des ordinateurs, de tous ces moyens techniques, sont des outils qui pourraient nous permettre, justement, d'avoir un rapport différent à la politique, c'est-à-dire à l'organisation de la société. Mais ça, ce sont des champs d'études considérables, que certains universitaires, à leur manière, abordent, mais ce sont des enjeux, c'est-à-dire il faut réinventer la politique comme ça. Hein, et Rougemont n'a pas donné les clés en main, mais c'est la piste qu'il nous demande de suivre.
Je vous remercie pour toutes les interventions que vous avez faites et d'avoir la visite de Genevois à Neuchâtel sur le cœur. Ça nous donne du baume. Nous avons un pays qui est plutôt des cailloux et des sapins, mais là, vous avez la visite de l'esprit Genevois et que l'on salue. Mais partant de cette réalité des cailloux et des sapins et des pâquerettes, j'aimerais revenir aux réalités que Denis de Rougemont évoquait en disant qu'il y a un moment donné, et j'ai l'impression que nous sommes dans ce moment-là, nous sommes dedans. Donc il n'y a pas trop à aller faire des plans sur la comète. Et j'aimerais citer trois exemples. Un, la Haute Adige, autour de Bolzano, 90% d'autonomie par rapport à l'État central italien, par rapport à Rome. 90% des impôts qui reviennent à la région. À l'école primaire, ils apprennent 5 langues. Ils ont une université. Et faites-moi confiance, dans la région, c'est plutôt alpestre. Il y a de l'eau, des cailloux, des vaches. Donc c'est un modèle qui fonctionne. Ils parlent allemand, ils sont en Italie. Et quand ils voient des Italiens aux yeux bruns qui sont dans la région, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que cet Italien qui est là, à table, dans les réalités de café de la région. Donc ça montre à quel point, disons, l'autonomie est déjà une réalité dans l'Europe actuelle, et sans conflit, mais simplement, on n'en parle plus. Il n'y a plus de problème. Ça, c'est un. Deux, la région de l'arc jurassien. L'Assemblée interjurassienne, depuis 2005, a implémenté un modèle, qui est le modèle de Denis de Rougemont, des régions à géométrie variable. Alors, un, l'arc jurassien, il y a Béjune, trois cantons. Il y a le quatrième canton, qui est Vaud. Ça existe. C'est l'arc jurassien élargi. De quelle manière fonctionnel? Comment? On avait l'Institut de microtechnique en face, et plutôt que de l'exporter à Lausanne et de le mettre sous la coupe fédérale de l'École polytechnique, on a fait venir l'École polytechnique ici à Neuchâtel. Donc ça fait 4 cantons, une région fonctionnelle de l'innovation. Ensuite, cette fonction, elle élargit à la Suisse occidentale, sur le même modèle de l'innovation. L'École polytechnique s'est exportée dans le Valais, elle s'est exportée, disons, à Genève. Donc on a une région dont on ne parle plus depuis 2005, elle fonctionne. Et ça, c'est une réalité, nous sommes dedans, et ça marche, et on exporte au niveau mondial, face à la Chine, qui est un géant, avec qui on a fait un accord actuellement, et on a reçu le président de la Confédération, les honneurs à Pékin. J'aimerais vous dire que la Chine, qui a l'œil sur nous, j'ai rencontré dans les années 90 un colonel des services secrets, ici à Neuchâtel. Il a visité toute la région. Et faites-moi confiance, j'avais froid dans le dos. Il a bien vu les choses. Il a dit, en l'an 2000, il n'y aura plus une seule entreprise chez vous. Eh bien, on a renversé la chose. On a fait venir le président chinois. On lui a montré notre modèle. Et maintenant, qu'est-ce que la Chine a pour 1 milliard d'habitants et plus? Le modèle de devenir un super empire de l'innovation. C'est exactement les termes dans lesquels nous sommes dans l'arc jurassien. Donc, n'ayons aucune peur. Troisièmement, le modèle, disons, français. Ne craignez pas ce modèle, il est par terre. Macron, quand il était ministre, est venu ici à visiter la région. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les articles du Club 44, une société en marche. C'est son modèle. Il est venu ici, il a fait de l'innovation, un programme national. Alors maintenant, n'ayons aucune peur depuis ici. On parle de l'Empire ottoman où les Turcs sont venus après la Première Guerre mondiale ici, et on a un éminent représentant ici même. La constitution turque est partie sur un modèle suisse et de Neuchâtel. Donc l'université de Neuchâtel peut être mondiale. Donc pas de souci de ce côté-là. Simplement pour vous dire une chose, gardons l'esprit calme par rapport aux réalités. Les gens viendront ici et ils verront ce qui se passe. Et depuis là, l'esprit est un phénomène qui est mondial, universel, humain. Et dans ce sens-là, l'universalisme peut partir d'une personne à l'autre. Et c'est de ce modèle de la personne que Denis de Rougemont est parti.
Pas d'accord.
Oui. Bonjour. Écoutez,
en lisant un petit peu la vie, la biographie et le milieu dans lequel Denis Rougemont a vécu, on entend souvent le mot personnalisme. Et il a une pensée qui était basée sur le personnalisme, donc sur une sorte d'humanisme. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il soit tombé, à mon avis, il est tombé dans un piège, ce piège de la nation, parce qu'il n'y a pas plus antipersonnalisme que ce mot « nation ». En Suisse, on ne parle pas de nation, on parle de pays. On a un pays qui est un groupe de gens, qui a une population, qui a un territoire, qui a une culture, à l'inverse de nos, on peut dire, nos amis français qui se gaussent tout le temps dans la notion d'État. Et qu'est-ce que c'est l'État ? C'est plus un pays, c'est plus une population, c'est un pouvoir, c'est une police, c'est une armée, n'est-ce pas? Et on a parlé, vous avez parlé d'exemples d'États qui sont devenus trop autoritaires, mais ce n'était pas une dérive, Franco, ce n'était pas une dérive, Hitler, ce n'était pas une dérive, c'était la nation poussée jusqu'au bout. Et maintenant, on voit que les choses sont calmées, ça revient dans ces pays, en France notamment, ils n'ont que ce mot en tête. On revient à ces mouvements populistes qui sont partout, c'est des recrudescences et resurgescences de cette notion de cette notion de nation qui va encore à l'époque à l'encontre de la nôtre. Quelle est la devise française ? Liberté, égalité, fraternité. Quelle est la devise suisse ? Alliance de population, un pour tous, tous pour un. Voyez l'opposition totale. Et si Denis de Rougemont était fondamentalement, alors ça a été dit après par vous et puis par une personne qui a parlé, revenu sur cette notion d'union de population, mais là-bas, Denis Rougemont, dans ce concept d'État-nation, je veux dire, en faire État-nation, hein, c'est même pas une plaisanterie, ça me paraît être une contradiction et un piège terrible dans lequel il est tombé.
Je vous coupe, vous avez paraphrasé la pensée de Denis de Rougemont, vous êtes en parfait accord avec lui, il n'est jamais tombé dans le piège de l'État-nation, puisqu'il l'a toujours... Il a toujours critiqué, et il a été critiqué notamment en France pour avoir démoli l'État-nation. L'idéal de Denis de Rougemont, c'est l'union des personnes. Ce n'est pas l'État dont vous avez expliqué la logique de l'État-nation qui mène à la guerre, à l'alignement des esprits, etc. Vous avez parlé de Franco. C'est tout à fait sa pensée. Donc, simplement pour redire ce que j'ai déjà dit, donc Rougemont n'est pas quelqu'un qui adore l'État-nation, c'est quelqu'un qui exècre l'État-nation, parce que l'État-nation brime l'autonomie personnelle et la diversité des personnes et des communautés. Voilà, et empêche l'épanouissement de la personne, qui est le but de la société, d'après Denis de Rougemont. Donc vous avez paraphrasé sa pensée, merci beaucoup.
Ceci étant, et malheureusement peut-être, il n'empêche que le monde est organisé autour des États et que beaucoup des États se revendiquent de ce modèle de l'État-nation. On peut le déplorer, on ne peut pas l'ignorer. Vous parliez des Français, mais ils sont loin d'être les seuls. Et effectivement, la référence à la nation ou au nationalisme est souvent péjorative. Le cas espagnol est très intéressant, hein, où on accuse les Catalans d'être nationalistes, mais les Catalans accusent l'État espagnol d'être nationaliste. Donc effectivement, il y a une connotation négative. Ceci étant, comme je le disais, ça a été une idée moderne. Je rappelle, la modernité, c'est pas maintenant. La modernité, c'était il y a deux siècles et demi, hein, que ça a commencé. Et c'est une idée qui a joué un rôle important dans l'émancipation des populations, notamment du système féodal. C'est un fait historique, je ne peux pas le nier. Le thème était, effectivement, est-ce que l'État-nation est la source de tous nos maux ? Alors, on peut parler d'autre chose, mais encore une fois, le thème était autour de l'État-nation, raison pour laquelle, effectivement, on disserte autour de cette notion qui, alors je rejoins entièrement François, n'était pas du tout une notion que Denis de Rougemont appréciait, bien au contraire.
Je crains de rabaisser un petit peu le débat, mais j'ai une compréhension un peu différente de ce que j'ai cru comprendre aujourd'hui dans vos déclarations. Dans le sens que vous avez dit, monsieur le professeur Levrat, que fédéralisme et État étaient en quelque sorte un oxymore. C'est ce que j'ai bien compris. Il me semble que la Suisse, depuis 1848, est quand même un État fédéraliste et que néanmoins, elle a un État. Par contre, où je ne comprends pas bien non plus, est-ce que la Suisse est une nation ? Là, moi, j'ai des doutes. Je crains plutôt que l'État suisse, qui me fonctionne bien, est le produit des institutions. peut-être discuter. Moi, c'est ma conviction. Et alors, transférer ça sur le plan de la réflexion européenne, je dirais que vous avez utilisé le mot, c'est absurde de dire nation européenne. Ça m'a peut-être échappé, mais moi, je n'ai jamais entendu cette expression. Parce que ce n'est pas une nation. J'ai entendu l'expression de Jacques Delors disant qu'il faut faire une fédération des États-nations. Mais c'est tout autre chose que la fédération procédant d'une nation européenne. Ce serait absurde de ne pas tenir compte des différences nationales, linguistiques, dont on a peu parlé. Et le fédéralisme suisse se compare difficilement aussi, c'est une banalité de le dire, au fédéralisme américain, où la langue est unique et nous pas. Et si on veut faire un fédéralisme européen, il faut tenir compte de ce modèle suisse qui crée un État par les institutions, mais qui respecte les nations. Je ne sais pas ce que vous en pensez, pour faire une question à la fin de la remarque.
Alors, encore une fois, cette idée que la fédération et l'État sont deux modes d'organisation différents de la société, c'est une idée relativement récente, c'est une idée qui est une idée de théorie politique et qui, à mon avis, mais vous pouvez ne pas être d'accord, mérite d'être explorée. La Suisse a un cas intéressant, comme les États-Unis d'Amérique d'ailleurs. Je pense qu'on sera la plupart d'accord pour dire qu'il existe une forme de nationalisme, alors qui est mal nommé américain, hein, puisque les Amériques, ça inclut le Venezuela, par exemple, où ça ne se passe pas très bien. Mais il y a un nationalisme états-unien. Et les États-Unis se sont créés comme une fédération. C'est historiquement le premier modèle de fédération moderne, hein, où justement, il y a un débat absolument passionnant dans les Federalist Papers entre savoir est-ce qu'on est sur un modèle national ou sur un modèle fédéral. Et à l'époque, le modèle fédéral, c'était un modèle non étatique. C'était justement cette confédération, donc cette idée d'une alliance, mais qui ne prenait pas la forme étatique. Et la force des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, c'est de rejoindre les deux. Et depuis, c'est ce qui a été dominant comme modèle. C'est là-dessus qu'on a notamment fait le modèle allemand, etc. Et la Suisse, je dirais, notre système d'État fédéral, il est en partie imposé par l'extérieur. C'est-à-dire qu'effectivement, pour exister dans le monde, on doit être un État. Malheureusement, vous parliez tout à l'heure, par exemple, des Palestiniens. Les Palestiniens, malheureusement pour eux, ils n'ont pas un État et donc ils n'existent pas à égalité avec les autres dans le monde. Et donc les Suisses, on est, je dirais, un État très particulier. D'abord, clairement, il n'y a pas de nation suisse, ou en tout cas pas au sens où la plupart des États-nations le conçoivent. Donc je pense que la Suisse n'est pas un État national, certainement pas. La Suisse est un État fédéral, mais par défaut. Et la Suisse est effectivement composée par la volonté de ses entités constitutives, volonté parfois un peu forcée. Hein. Je rappelle que, par exemple, les Genevois ont rejoint en 1815. Pourquoi ? Ben parce qu'il y avait notre voisin Napoléon qui avait un peu envahi tout le monde. Puis on s'est dit, ben, finalement, on est mieux à faire association avec cette équipe qui ne sont pas forcément, vous savez, à Genève, on est un peu au bout d'un autre lac, etc. Mais on est d'accord qu'on est mieux dans cette association, notamment pour se protéger par rapport à des grands projets nationaux ou européens, que ce soit Napoléon ou d'autres après, hein, qui ont essayé par la force de faire des grands projets européens. Donc, de fait, la Suisse, je rappelle que dans notre Constitution, encore une fois, moi j'ai le défaut de lire les textes et de dire, bah, si c'est écrit, c'est que ça doit vouloir dire quelque chose, il est rappelé que les cantons sont souverains. Donc, quelque part, l'État suisse ne remplit pas la condition d'être un État, parce qu'en théorie, au niveau international, un État, il est souverain. Or, en Suisse, on dit, ben non, c'est les cantons qui sont souverains. Et de manière très intéressante, quand il y a eu cette tentative de vote sur l'autodétermination en Catalogne en octobre 2017, quand il y a eu la même semaine au Kurdistan irakien un vote sur l'autodétermination, etc., 3 semaines avant, en Suisse, on avait voté sur notre autodétermination, mais personne n'a même soulevé la question. On votait sur la question de l'impôt fédéral direct. On pourrait très bien dire non, et puis c'est fini, il n'y a plus de Suisse. L'État suisse, en tant que tel, effectivement, ne procède pas d'une logique top-down, comme on dit, donc d'un pouvoir qui, après, doit se justifier par la création d'un démos, d'un peuple. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire
Les États viennent sur des nations préexistantes. De nouveau, les États-Unis d'Amérique, il n'y avait pas de nation préexistante. Ils ont une seule langue. À un moment, ils ont voté pour savoir quelle était la langue. C'est à une voix après qu'ils ont décidé que c'était l'anglais. Donc, c'était assez divisé. Mais ils ont construit un modèle national. Et aujourd'hui, oui, il y a un nationalisme états-unien ou américain. C'est évident. Mais ça préexistait pas. Donc, c'est bien l'État, avec toutes ses diversités, hein, et toutes ces libertés, il y a aussi un très fort libéralisme, un grand sens des libertés aux États-Unis d'Amérique, mais il y a quand même eu une construction nationale ex poste. Mais partout, même la France. Enfin, vous savez peut-être qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a, par la force, interdit par exemple aux enfants en Bretagne de parler le breton dans les cours d'école. On l'a fabriqué, cette nation française, une et indivisible, etc. Elle n'a pas toujours existé, bien sûr que non. Toutes ces constructions, alors que ce soit l'État fédéral suisse qui est différent d'un État national ou les États nationaux, c'est des constructions. J'ai jamais croisé un État de Rougemont non plus, il le disait. Hein. On ne va pas croiser des États dans la rue, on va croiser des dirigeants. Et eux, ça les arrange évidemment d'avoir un pouvoir sur quelque chose. Donc, de fait, ils représentent leur population, leur territoire, etc. Mais en soi, c'est tout des constructions. Et c'est vrai que la construction helvétique est une construction complètement différente. On n'a jamais eu besoin de se constituer en tant que nation. Mais on a une culture politique commune, c'est très important. Et notamment, je pense que la démocratie directe en Suisse joue un rôle très important dans cette culture politique commune, parce que même si j'échange peu avec mes compatriotes d'Outre-Sarine, 4 fois par an, on va débattre de la même des mêmes questions politiques, hein, et on fait partie d'une communauté politique, et on accepte tous d'être dans cette communauté politique. Donc, c'est un autre mode de construction. Vous avez raison, vous avez raison. La Suisse n'est pas un État-nation, mais la Suisse doit être un État, sinon la Suisse, peut-être certains d'entre vous l'avez remarqué, et j'utilise souvent ça dans mes cours, un chef d'État avec qui on était en conflit, le chef d'État libyen, précédent, M. Kadhafi, avait soumis une résolution à l'ONU. Vous vous rappelez qu'on avait quelques soucis avec lui parce que justement les jeunes voix avaient arrêté brièvement un de ses fils qui maltraitait son personnel, etc. Enfin, peu importe les raisons. Mais donc M. Kadhafi avait déposé une résolution à l'ONU pour démanteler la Suisse en disant c'est pas un État-nation. Séparez-les, rendez à la France ceux qui parlent français, à l'Allemagne ceux qui parlent allemand. Oui, je suis tout à fait sérieux. Et heureusement, on a assez d'alliés dans le monde pour que M. Kadhafi n'ait pas eu raison, mais de fait, on n'a pas essayé de se défendre en disant si, on est une nation. Mais on est un État, on est un souverain. D'où la nécessité, même si peut-être qu'on n'a pas les caractéristiques des autres États, mais d'être un État. Parce que si on n'avait pas été un État, on aurait sûrement eu beaucoup de problèmes, encore plus qu'on en a quand même eu avec ce monsieur. Donc, c'est vraiment un enjeu assez complexe, à la fois avec comment on se représente, comment on se construit comme communauté politique, mais quelles sont les pressions de l'extérieur. Vous parliez tout à l'heure, je m'excuse, je parle trop, mais c'est comme ça les jeunes voix aussi. Je parlais tout à l'heure de finalement cette construction d'États nationaux sur l'ancien empire ottoman. Regardez ce qui s'est passé dans l'ex-Yougoslavie, il n'y a pas si longtemps. Dans les années 90, vous aviez une partie du territoire, la Bosnie-Herzégovine, qui ne voulait pas rentrer dans un modèle national et qui était malheureusement un champ de bataille avec des paquets de morts. Et c'est les États-Unis d'Amérique qui ont imposé ce qu'on appelle les accords de Dayton et qui ont dit aux Bosniaques, maintenant vous avez une nation musulmane et vous faites un État national et puis c'est fini ces histoires. Et ceux qui défendaient, et j'en étais, François aussi, dans le cadre du Conseil de l'Europe et d'autres organisations, on défendait une idée de multination, de multiethnisme, etc. Les réalistes, c'est-à-dire les militaires américains, ont dit « Bon, maintenant, ça suffit, faites un État national et puis ça calmera le jeu. » Donc, et ce n'était pas la volonté des habitants. Mais donc, vous avez cette pression qui vient aussi de l'extérieur. Et oui, la Suisse est un État sur la scène internationale. Sur le plan interne, je ne suis pas sûr qu'on ait cette perception, comme tu disais, on a des patries, on a des allégeances à différents niveaux, ou ce qui a été dit sur la Suisse romande, etc. Bien sûr, c'est des réalités, mais pas des réalités institutionnelles et politiques. On n'en a pas besoin. Voilà, je parle trop.
Voilà, alors le temps avance, c'est l'heure bientôt de conclure. J'aimerais lire quand même le dernier paragraphe d'un article de Denis de Rougemont qui a paru dans Le Monde diplomatique en mars 74, qui a été intitulé « L'État-nation contre l'Europe ». C'est un article que vous pouvez avoir, j'en ai plusieurs photocopies, et il sera à disposition dehors, sur la petite table, où vous trouverez aussi d'autres brochures. Et Denis de Rougemont disait: il s'agit de recréer en Occident le sens de la communauté, quelle soit de production ou d'usage, de langage, de recherche, de travail ou de jeu, ou même d'attente spirituelle. Il s'agit de rendre un sens à ces mots de notre langue que vos calculs ont oubliés: communauté, amitié, voisinage. Et ce que je souhaiterais, c'est que chacun de vous conclut en disant si effectivement la pensée de Denis de Rougemont est toujours d'actualité, ou est-ce que c'est une utopie, ou qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui.
Bon, moi, je suis mal évidemment, je suis compromis là-dedans. Donc, en tout cas, je vérifie chaque année avec mes étudiants que la pensée de Denis de Rougemont les intéresse beaucoup, et ils ne la pensent pas démodée ni poussiéreuse. Ça, je le constate à travers eux. Ça ne veut pas dire que la pensée de Rougemont est réalisée. Rougemont se définissait comme un utopiste au sens, non pas au sens vulgaire de celui qui brasse des chimères, mais quelqu'un qui fixe un but pour l'avenir, c'est-à-dire une direction. Et la direction qu'imprime Denis de Rougemont intéresse toujours les jeunes aujourd'hui, l'idéal qu'il trace. Donc, pour moi et pour eux, la pensée de Denis de Rougemont est toujours stimulante aujourd'hui pour penser les questions que nous devons affronter en Europe aujourd'hui.
Sans être un expert sur Denis de Rougemont, peut-être deux choses. Rappeler effectivement toutes ces initiatives locales qui essaient de penser autrement les relations entre les citoyens. Et puis, après, une réflexion d'historien, c'est que l'État-nation, comme on l'a dit, n'a pas toujours existé et n'existera pas toujours. Donc, peut-être qu'on verra effectivement quelque chose qui va évoluer dans les années à venir. Et donc, pourquoi pas.
Alors, d'abord, une chose, je pense qu'il faut éviter de faire parler les morts, même si ça a été des grands penseurs. Donc, on ne peut pas plaquer la pensée de Rougemont sur ce qui se passe aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'il aurait pensé de ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, je pense que la pensée de Rougemont n'est pas un étalon, n'est pas quelque chose avec lequel on peut mesurer la réalité. Par contre, je pense que la pensée de Rougemont, et ça rejoint ce que disait François, c'est un vecteur. C'est-à-dire que ça a montré des directions, et là, il y a énormément d'éléments qui n'ont pas été encore suffisamment explorés, qui sont extrêmement intéressants dans sa pensée. Donc, on peut l'utiliser pour penser nous-mêmes des solutions nouvelles. Par contre, je pense qu'on ne peut pas juste... Mais j'ai exactement le même discours à propos d'Immanuel Kant. Il y a eu je ne sais combien de bouquins qui nous expliquent que, voilà, analyse de l'Union européenne, parce que Kant a dit ceci et pas dit cela. Kant, il ne savait pas qu'il y aurait l'Union européenne. Et de Rougemont, il ne savait pas ce qui se passe, Donald Trump ou qu'en sais-je. Enfin, donc, on ne peut pas plaquer cette pensée sur la réalité. Par contre, comme je dis, oui, c'est un excellent vecteur pour essayer de penser nous-mêmes sur le futur de l'Europe.
Merci beaucoup, et puis merci beaucoup à la salle qui a aussi participé à ce débat.